Cela fait un mois, quasiment jour pour jour, que le musée des Augustins a rouvert ses portes après une fermeture de plus de 6 ans. Depuis, les foules se pressent et le musée ne désemplit pas. Mais que découvre précisément ce public dans le musée des Beaux-Arts de Toulouse? J'ai la joie de recevoir ce matin la directrice du musée des Augustins. Bonjour Laure Dallon.
Bonjour.
Je le disais, le public est nombreux. On voit ces files d'attente devant le musée des Augustins, rue de Metz. Quels sont les premiers avis que vous avez recueillis?
Les premiers avis sont assez réjouissants, en toute franchise, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours très positifs. Je pense que les gens sont assez émerveillés de retrouver ce lieu. Alors, soit de le retrouver quand ils le connaissaient, soit de le découvrir quand ils ne le connaissaient pas. Et c'est vrai qu'il était fermé depuis longtemps, donc c'est une vraie surprise vraiment pour tout le monde, je crois. C'est plutôt ça qu'on entend, une forme de surprise et d'émerveillement.
Oui, et d'autant plus que, comme vous le dites, il a fait peau neuve. Et c'est vrai qu'avec toutes ces peintures qui ont été rénovées, les peintures murales, j'entends, qui ont été rénovées, ça met en valeur d'une façon extraordinaire toutes les œuvres.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On a ce nouvel accueil déjà, qui évidemment a beaucoup fait parler de lui pour ce qui concerne sa façade. Mais finalement, là maintenant, les visiteurs peuvent faire l'expérience de rentrer à l'intérieur et de comprendre ce projet. Donc d'arriver dans le cloître qu'on connaît mais qu'on redécouvre un peu différent quand même. Et puis on a raccroché, on retrouve la salle romane telle qu'elle était magnifiée par l'installation de Georges Pardoux. Et puis à l'étage, par contre, c'est vrai qu'on a repensé aussi l'accrochage des peintures. Les escaliers ont été aussi... magnifié, je dirais. En tout cas, on a retravaillé à la fois la présentation des œuvres dans le grand escalier monumental, l'éclairage. Donc c'est vrai que tout ça apporte finalement beaucoup de nouveautés dans des espaces que les gens connaissent. Et puis le parcours se termine avec cette boutique qui est une vraie nouveauté, qui nous permet d'avoir pignon sur rue en quelque sorte, alors que le musée autrefois finalement restait
très fermé,
très protégé, fermé entre ces murs.
À l'image du cloître qui est vraiment à l'intérieur de ce musée. Vous avez pris, Laure Dallon, la suite d'Axel Emery, vous êtes arrivée en 2022. Vous aviez auparavant piloté le chantier de rénovation du musée de Picardie. Alors on peut se dire d'un chantier de rénovation à un autre. Finalement, quelles sont les différences entre les deux? Quelle particularité vous avez trouvé au musée des Augustins?
Alors, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de points communs, évidemment, chantier de rénovation d'un grand musée. Il se trouve que le musée de Picardie Amiens était un musée du 19e siècle. Le musée des Augustins est en fait composite, mais avec cette partie musée 19e aussi, sur laquelle j'ai eu le plaisir et la joie de travailler. Je dirais que la principale différence, c'est vraiment la nature même de ce bâtiment qui est assez, assez segmenté. À chaque aile, finalement, enfin, chaque aile date d'une époque différente, à chaque aile son atmosphère. Donc, en cela, c'est très différent par rapport à Amiens. Et du coup, tout l'enjeu était de donner de la cohérence au parcours, tout évidemment en respectant et en mettant en valeur et en beauté les spécificités aile par aile.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas voulu uniformiser. Mais vous avez plutôt cherché à unifier, en gardant à chacun sa spécificité.
Ça aurait été impossible de toute façon d'uniformiser complètement parce que c'est trop différent. Mais par contre, il était vraiment important pour moi qu'il y ait un fil conducteur. C'est un projet qui s'est dessiné étape par étape, je dirais. Donc ça n'a pas été lancé comme une rénovation globale. Donc on a plusieurs architectes qui sont intervenus dans des temporalités différentes. Donc un peu une juxtaposition de chantiers. Et donc pour moi, vraiment, un des défis, c'était de mettre de la cohérence et que cette juxtaposition ne se ressente pas. Ou en tout cas que ça soit considéré comme une richesse et pas comme quelque chose qui peut perdre les gens.
Oui, c'est ça. Alors, il y a encore des travaux qui sont en cours, notamment le cloître des Augustins. C'est l'unique cloître du Sud-Ouest qui date du XIVe siècle. Quelles sont les perspectives de le voir achevé?
Alors, effectivement, c'est vraiment le gros chantier patrimonial au cœur des Augustins. C'est vrai qu'on est vraiment en plus au cœur du musée, dans un lieu que les gens aiment beaucoup, qui crée un effet très fort à chaque fois qu'on le découvre pour qui que ce soit. Donc, ce qui a été réalisé dans l'année qui vient de se terminer, c'est ce qu'on a considéré comme la première tranche de ces travaux. Donc, on a refait la couverture, la toiture, l'électricité. On gère mieux les eaux pluviales aussi, donc...
C'est tout ce qui ne se voit pas, ça, c'est les travaux qui ne sont pas
ne se voit
les,
pas,
plus,
effectivement,
les plus plaisants.
Tout à fait. Et on a commencé la deuxième tranche de ces travaux, et là, ça va vraiment davantage se voir, parce que c'est la restauration de tout ce qui relève de la colonnade, donc les murs bahuts, les colonnes, les chapiteaux. Et ça, c'est commencé, et ça s'achèvera au printemps 27. Donc c'est un chantier qui va prendre du temps. On a mis un certain temps à déterminer les protocoles. C'est vrai que ça paraît, on peut imaginer, les colonnes sont un peu noircies, il faut les nettoyer.
Oui.
Évidemment, c'est
et
beaucoup
en fait,
plus compliqué que ça.
plus subtil.
Il y avait effectivement des dégradations particulières qu'il a fallu étudier, analyser. Il y a plein de façons de restaurer la pierre, le marbre en l'occurrence. Et donc on a l'équipe de restauratrices retenue qui a fait un certain nombre de tests et d'essais. Et on a réuni tout récemment un comité scientifique avec un certain nombre d'experts. Et donc les résultats de ces tests sont montrés, discutés, tout ça pour aboutir finalement au choix qui paraît le plus adapté à la spécificité de ces matériaux et de ces dégradations-là. Mmh. Donc ça, on vient de l'arrêter là, justement récemment, et on va pouvoir se lancer dans la restauration de ces colonnes qui sont, on a plus de 150 colonnes dans le cloître, donc il y a
vaste
évidemment beaucoup de travail. Mmh.
Donc à découvrir en 2027, voilà, ce cloître des Augustins. Il y a aussi l'église hein, dans cet ensemble du musée des Augustins. Qu'est-ce qu'elle va devenir ?
Alors l'église, qui est effectivement un volume très spectaculaire, très intéressant et très singulier aussi, c'est pas si fréquent que ça d'avoir une église qui est une salle de musée à proprement parler. Donc on a travaillé sur un réaménagement. Pour moi c'était vraiment important de mieux déployer les collections permanentes dans cet espace. Donc on a démonté le plateau d'exposition qui crée une sorte de boîte dans ce vaste
qui
volume.
Qui était sur le dans le cœur en fait de l'église.
Oui, tout à fait. Mmh. Et qui va laisser place à une scénographie plus harmonieuse à l'intérieur, enfin dans l'intégralité de ce volume. Donc ça, c'est vrai qu'il va nous falloir un petit peu de temps, à la fois pour des raisons techniques, pour des raisons financières. Et ce sont des travaux qui sont en cours de préparation, mais qui ne pourront s'achever qu'à la fin de cette année. Donc on va y travailler.
Ah oui.
Oui, enfin on y travaille, et donc on y travaille pour que ça soit ouvert au public, soit à la fin de l'année 26, soit au tout début de l'année 2027, en cohérence avec la restauration du cloître aussi.
Oui, bien sûr. Alors quand vous parlez de financement, on parle de financement public et j'imagine aussi du mécénat.
Oui, alors le mécénat, on a particulièrement fait appel à ce système pour la restauration du Grand Cloître, justement. On a lancé une campagne de financement participatif l'année dernière.
Ça a marché, ça a bien marché.
Oui, ça a très bien marché. Alors c'est une campagne qui a touché à la fois des entreprises et des particuliers. C'est important de réussir à mobiliser le tissu, à la fois le tissu économique et vraiment les habitants de la ville. Pour moi, il y avait vraiment un intérêt à lancer cette campagne, évidemment, pour récolter des fonds, c'est l'objectif.
Oui, mais c'est aussi une visibilité.
Mais c'est aussi une visibilité, et c'est aussi une façon, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le perçois, pour chacun de s'approprier aussi le projet, de se réapproprier ce musée qui était fermé depuis longtemps.
Oui.
Donc, il y avait vraiment là quelque chose d'intéressant à jouer.
Et Dieu sait s'il a manqué, ce musée, hein, au Toulousain.
Ouais, je crois.
Et pas seulement. Vous avez choisi pour l'année de la réouverture la thématique du ciel. Pourquoi ce thème, Laure Dallon ?
Alors tout d'abord, j'ai choisi d'avoir une thématique parce que comme nous avons donc démonté le plateau d'exposition de l'église, nous n'avons pas de salle d'exposition temporaire. Et il me semblait néanmoins important d'avoir une programmation qui s'appuie sur des thématiques. Alors en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'était vraiment d'avoir une thématique comme fil conducteur sur toute l'année 26 et même jusqu'à la fin de ces travaux, jusqu'au printemps 27. J'ai réfléchi à une thématique qui soit assez large pour qu'on puisse finalement proposer beaucoup de choses et qui en même temps soit... convoque l'histoire du lieu. On est dans un ancien couvent, musée des Augustins. J'avais envie de qu'on en parle, mais qu'on y travaille, mais de façon un peu poétique. Et donc cette idée du ciel, elle m'est venue comme ça, et je me suis dit, finalement, le ciel, c'est une thématique qui va permettre de faire le tirer un trait entre le passé, ce passé de couvent,
et puis l'art religieux,
l'art religieux, exactement, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait à Toulouse, on est quand même dans une ville où on est incité à regarder le ciel et même au-delà, l'espace. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose autour
avec l'aéronautique, vous voulez dire.
Oui, tout à fait.
Oui.
Cette thématique du ciel, voilà, on peut à la fois... on a un accrochage temporaire aujourd'hui sur le ciel comme motif, donc c'est vraiment un accrochage assez sensible de peinture, mais aussi de dessin, de gravure, de photographie qu'on a emprunté à d'autres musées toulousains. Donc je suis allée frapper aux portes... du musée des arts précieux Paul Dupuis, du château d'eau, des abattoirs, qui ont tous joué le jeu. Et donc, on a un accrochage qui rassemble des œuvres sur le motif du ciel, mais qui proviennent de ces différents établissements toulousains.
Oui.
Donc, c'est une première façon de traiter le sujet, mais on va continuer à creuser ce sillon-là dans l'année qui vient.
D'accord. Donc là, encore des choses à découvrir au fur et à mesure de l'année. La réouverture du musée des Augustins était aussi l'occasion d'acquérir des nouvelles œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été peut-être les critères de choix de ces œuvres et puis quelles sont-elles ?
Oui, alors un musée est vraiment un établissement vivant, donc c'est vrai que, après, ça dépend, c'est évidemment une question de moyens, mais acquérir des œuvres, c'est important parce qu'une collection, c'est vraiment ça, c'est un organisme vivant qu'on enrichit. Et c'est vrai qu'il faut avoir des axes pour faire des choix, parce que nos moyens étant forcément, mais ils le sont pour n'importe qui, contraints, nous avons besoin d'avoir des orientations. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est pas si facile que ça à trouver, mais c'est de trouver des œuvres qui sont à la fois... qui résonnent avec l'histoire évidemment du musée mais de Toulouse d'une façon ou d'une autre, mais qui ont une portée qui ont une plus grande portée que l'échelle strictement locale, c'est-à-dire par exemple une des grandes acquisitions de ces années de fermeture, ça a été un grand tableau d'Henri Martin qui est exposé dans le Salon Rouge aujourd'hui, qui est une œuvre qui s'appelle Course à l'abîme, qui est un tableau qu'il a réalisé quand il était jeune dans les années 1880. Henri Martin, c'est un artiste qui est né à Toulouse, qui a été formé à Toulouse et puis qui est parti ensuite à Paris. Et ce tableau de jeunesse, il l'a gardé avec lui. Donc la famille le conservait encore jusqu'à récemment.
Donc il n'avait jamais été exposé au public.
Il n'avait jamais été exposé. Et en plus, c'est un tableau, comme il l'a gardé, il a retravaillé dessus des années, voire des décennies plus tard. Donc on retrouve sa touche, la touche plus familière d'Henri Martin, avec ses couleurs pures qu'il applique, très, très lumineuses, très colorées. Et donc ce tableau nous raconte beaucoup de choses sur un artiste qui est né à Toulouse, mais qui finalement dépasse par son importance dans l'histoire de l'art la simple échelle locale. Donc c'est un peu l'illustration de ce que j'ai moi à cœur de proposer. Même chose avec une œuvre comme Le génie de Toulouse que vos auditeurs auront peut-être remarqué s'ils passent devant le musée, puisqu'on a j'ai choisi de placer une très grande sculpture dans ce qui est aujourd'hui la boutique du musée, donc derrière une très grande
donc
baie vitrée.
Donc on peut l'apercevoir de la rue de Metz et de la rue Alsace-Lorraine.
Et cette œuvre, comme son nom l'indique, Le génie de Toulouse, est un hommage rendu à la ville de Toulouse par, en l'occurrence, Carlos Arabezol, qui est un artiste né à Toulouse, un sculpteur qui s'est fait connaître dans les années 1920, 1930, 1940, avec des grandes sculptures monumentales qu'on peut rattacher plutôt, si vous voulez, à l'art déco, ou en tout cas à ce courant de sculpture vraiment des années 30, sculpture monumentale. Et cette œuvre était, elle aussi, donc c'est un peu le point commun avec l'œuvre précédente, était restée conservée par la famille, puisque il voulait en faire un monument pour une place publique de Toulouse. Le projet n'a jamais complètement abouti. Et moi, ça me semblait vraiment important que cette œuvre, elle revienne à Toulouse. C'est un artiste vraiment très novateur en son temps, très intéressant. Et je trouvais que cette œuvre, elle illustrait à la fois vraiment le talent de cet artiste, le talent singulier de cet artiste, toulousain, mais connu pour ses œuvres ailleurs en France.
Et est-ce que ça justifiait que cette statue qui était à l'origine dédiée à être en extérieur, est-ce que ça justifiait qu'elle soit visible à l'intérieur, vraiment à l'abri?
Oui, tout à fait. Quand j'ai cherché une place pour cette sculpture, ça s'est imposé à moi, voilà, tout à coup, parce que elle est très grande, elle fait 3,50 m, donc on est sur quelque chose de très monumental, qui n'a pas forcément sa place dans le parcours des collections. J'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres endroits pour l'exposer. Je trouve que rien ne servait très bien cette œuvre. Et finalement, quand l'idée m'est venue de la mettre dans la boutique, je trouvais d'abord que ça donnait une identité à cette boutique, qui est vraiment la cerise sur le gâteau de la visite. On est vraiment sur quelque chose qui complète et qui achève la visite du musée. Et puis en même temps, vous l'avez compris, cette œuvre est en plâtre, elle est trop fragile pour être mise dans l'espace public, mais du coup là elle y est presque, tout en étant effectivement protégée.
En tout cas, on comprend bien que ce musée des Augustins a de longs jours devant lui, parce qu'on voit bien que les Toulousains et tous ceux qui viennent de l'extérieur sont vraiment attirés par cette réouverture. En tout cas, on lui souhaite une longue vie, parce que voilà, il faudra encore découvrir le cloître rénové et puis toute la nouvelle scénographie qui aura lieu dans l'église du couvent des Augustins. Merci infiniment, Laure Dallon. Je rappelle que vous êtes la directrice du musée des Augustins. Voilà, il a rouvert ses portes depuis un mois et vous étiez là ce matin pour nous en faire un premier bilan. Merci à vous.
Merci.